Voilà. Bonjour, je vous remercie d'être là pour ce deuxième cours de cette année. Au cours précédent, comme vous vous en souvenez, nous avons essayé de rappeler le cadre général de notre enquête. Et il nous faut à présent entrer plus avant dans notre sujet proprement dit. Devant les circonstances de JN, circonstance est à prendre au sens latin, ce qui se tient autour, le milieu, l'ambiance, l'époque de JN. On ne redira jamais assez que tous les âges sont des époques de transition, au point qu'il n'y a pas grand sens à tenter de définir en ces termes quelque époque que ce soit. Et pourtant, il est indéniable que la vie de JN, dont vous avez les dates ici, coïncide avec un âge d'une singulière importance dans l'histoire du Japon. Il nous faudra donc, avant d'aborder cette vie, puis son œuvre, faire un bref bilan ou une mise au point de la situation culturelle, religieuse, politique du Japon de son époque. Nous verrons qu'effectivement, la matière est riche. La plupart des sources modernes qui traitent de JN le présentent comme un personnage de l'époque de Kamakura, une détermination qui apparaît déjà comme sujette à bien des nuances, ne serait-ce que sur la date exacte du début de l'ère de Kamakura, qui correspond à l'époque du même nom, où le pouvoir politique effectif fut transféré de Kyoto à la ville de Kamakura, désormais siège du shogunat, inauguré par Minamoto no Yoritomo. Je vous donne des illustrations qui n'ont pas grand sens, c'est simplement pour aider votre attention. Les historiens donnent le plus souvent l'an 1185 comme début de l'ère, avec la victoire de Yoritomo à la célèbre bataille de Dannoura, la bataille navale qui vit la défaite des Taira. Nous reviendrons là-dessus la semaine prochaine, très, très rapidement bien sûr. On donne aussi parfois l'an 1192, date du décret impérial nommant Yoritomo, généralissime conquérant des barbares du Nord. Je vous donne une illustration d'un jeu à la mode au Japon, Sei Taishogun, c'est Yoritomo lui-même qui a changé depuis la statue précédente. Donc, on parle aussi des dates de 1180, 1183, etc. Nous n'avons pas à nous prononcer. En revanche, la date de 1333 pour la fin de l'époque de Kamakura est généralement admise. Elle correspond à la guerre de l'ère Genko, qui voit la tentative malheureuse de l'empereur Go-Daigo de restaurer la cour de Kyoto, de Heian, contre les Hōjō, famille remontant au clan des Taira, vaincu par Yoritomo. Paradoxalement, c'est celui qui marque la fin de l'époque de Kamakura, n'est-ce pas, Ashikaga Takaoji, et le début de l'ère suivante. Paradoxalement, les Minamoto avaient en effet perdu tout pouvoir effectif après Yoritomo, au profit des régents Hōjō. Il faut sans doute croire que l'histoire se répète parfois, car nous verrons que l'époque de JN avait déjà connu une situation politique similaire en bien des points. Quoi qu'il en soit, que nous adoptions 1185 ou à plus forte raison 1192, nous voyons bien que JN était âgé soit de 30 ans, soit de 37 ans, lorsque le centre du pouvoir politique quitta l'ancienne capitale de Heian pour n'y revenir justement qu'à la fin du XIVe siècle, en 1378, avec les shoguns Ashikaga, issus d'une branche des Minamoto cette fois, qui ouvrirent l'ère de Muromachi de la fin du XIVe, de 1392 en principe, à 1573. Là aussi, la date peut être discutée. Il s'agit ici de la victoire de Oda Nobunaga. En tout état de cause, les années de formation de JN, la période décisive pour la constitution de sa personnalité et de sa culture, s'inscrit donc entièrement dans les dernières années de l'époque de Heian. Cette période qui nous a parfaitement occupés jusqu'ici dans nos cours, si ce n'est l'année, la première année de notre cours, que nous avions consacrée à Son N, 1298-1356. Voici Son N, je vous le dis, je vous le redirai, vous savez que c'est lui qui est le disciple indirect de JN et qui a édité son œuvre poétique complète. Donc, nous ne dirions pas grand-chose en présentant JN comme une personnalité de Kamakura, alors qu'il en est l'un des éléments fondateurs et formateurs. Quelle était donc tout d'abord la situation culturelle du Japon de cette seconde moitié du XIIIe siècle ? du XIIe siècle, qui vit la naissance et la formation intellectuelle de J.M. Pour en donner une idée, il suffirait de renvoyer aux quatre années de cours précédentes où nous avons examiné les aspects de cette période qui semblaient importants pour notre enquête. Les Jingika, les poèmes sur les dieux, vous en souvenez. L'opuscule de Kukai sur le Shōjiji-Sōgi, ou donc sur la réalité des phonèmes, des graphèmes. Enfin, je vous donne la traduction qui est la plus adéquate à mon sens. Hein. La réalité des phonèmes et des morphèmes. On vous donnera souvent comme traduction les notes sur les phonèmes, les morphèmes et la réalité. Ensuite, le Wakan Roeshu, des poèmes japonais, chinois et japonais dignes d'être psalmodiés. Et enfin, le Senjusho, vous vous souvenez, le florilège de Saigyo que nous avons étudié l'an dernier. Ce dernier texte constitue, on l'aura sans doute remarqué, une sorte de lien naturel avec le thème de cette année. Tout d'abord, parce qu'il date probablement de la génération qui suit la mort de Jien, est imprégné de la religiosité qui dominait dans la première moitié du XIIIe siècle. Religiosité que partageait Jien et sur laquelle il eut lui-même une influence notable. Et ensuite, bien sûr, et surtout, parce que le protagoniste en est Saigyo, 1118-1190, l'illustre aîné de Jien, le maître de loi Hōshi Saigyo. Comme vous avez ici, je vous ai donné une karuta, n'est-ce pas, enfin, pour vous montrer toute la cohérence de cette époque. Vous savez que ce qu'on appelle le Hyakuninshu maintenant remonte probablement à Teika. Ateika, donc, qui est un contemporain de Jien. Saigyo est légèrement, on peut le considérer aussi comme un contemporain, puisqu'il est mort en 1190. Et je crois que c'est le poème 86 du Hyakuninshu, donc traduit par René Siffert sous le titre de 100 poètes, un poème. Et vous voyez ce poème qui pourrait être pris sous plusieurs sens. Je vous le donne très rapidement, n'est-ce pas? Alors, c'est Nageke tote tsukiyawa mono omowasuru. Alors, kakochika onaru wayanemidakada. Est-ce la lune qui m'incite ainsi à penser avec nostalgie, alors à quoi? À la lune elle-même? Souvent, dans la poésie médiévale, ça peut être pensée à quelqu'un, donc une pensée amoureuse. Ici, c'est certainement la pensée l'attachement au phénoménal dont se plaint Saigyo. Et Kakochika onaru, wayanamidakana, et pourtant mes larmes coulent malgré le visage de reproche que je lui adresse. C'est un poème très, très, très célèbre et qui est empreint de... parce que c'est Saigyo de pensée bouddhique. Comme vous le savez, comme nous l'avions dit, c'est l'un des poètes japonais les plus connus de nos jours encore. Saigyo et Basho sont toujours les deux noms que l'on donne pour la poésie japonaise. Mais les deux poètes, Saigyo et Jien, dont la réputation est certes bien différente, car l'opinion exige que l'on rabaisse le talent poétique de Jien. C'est quelque chose que nous verrons assez souvent. Jien est, enfin, que j'aurai peut-être l'occasion de rappeler, Jien est, sinon rabaissé, du moins très modérément apprécié de la critique moderne en tant que poète. Ils sont cependant constamment cités dans l'histoire de la littérature de l'époque, tout spécialement dans leur rapport avec le pouvoir politique. Il faudrait peut-être, si le temps nous en était laissé, nous livrer aussi à l'exercice quasi obligé de la comparaison entre les deux moines poètes. Mais nous verrons vite combien ils sont différents par leur mode de vie, et singulièrement la façon dont ils vivent leur religion. Saigyo est un parangon de la vie érémitique. J'avais trouvé une illustration, mais je ne l'ai pas mise. Bien que nous devions la considérer avec quelques distances, sa plongée dans l'érémitisme. Nous avons vu la dernière fois que la lecture de... non seulement la lecture du Senjusho nous a montré, et ça se fondait aussi sur des textes plus anciens que nous avons, et ça recoupe aussi avec le Saigyo Monogatari, il y a un va-et-vient constant entre la solitude du mont Koya, la solitude de Yoshinoyama, et la cour de Kyoto, de Heian, n'est-ce pas ? Saigyō va et vient, et son acolyte, Saiju, vous vous souvenez aussi, est souvent appelé à la capitale pour faire tel ou tel rite. Jien, en contrepartie, est presque le modèle du moine de cour. Et cela est d'autant plus évident lorsque l'on compare avec son lointain disciple Son-en, que je vous ai mis ici, n'est-ce pas, dont nous avions relevé le souci de placer ses pas dans les traces de son modèle. Nous avions parlé de Son-en lors de la deuxième année. Mais bien sûr, le point de rencontre entre Soyo et Jien est évident et est au cœur de notre enquête. Il s'agit de la poésie, tout spécialement de la poésie bouddhique, et de la façon dont l'un et l'autre ont intégré les doctrines bouddhiques dans leurs poèmes, comment ils ont chargé ces poèmes de la richesse des notions sino-bouddhiques, dont nous avons retrouvé des échos certainement réélaborés dans notre lecture du Senjusho, mais qui quand même remontent à Saigyō, et dont on peut facilement retrouver l'origine dans l'étude du corpus religieux de notre ermite, c'est pas le Sankashu de Saigyō. Les deux poètes sont donc à considérer pour être mieux jugés et compris au sein de la culture de la fin de Heian, dont ils sont la plus belle illustration, avec d'autres grands contemporains tels que Shunze et Teika, qui sont parents, n'est-ce pas ? Et ce sont des noms que vous connaissez déjà, dont je vous reparlerai, je ne reviens pas dessus pour l'instant. Et on n'oubliera pas qu'ils sont les deux poètes les plus représentés dans le Shinko Kinshu, le huitième recueil, n'est-ce pas, dont je vous ai un peu entretenu la dernière fois, donc je vous en redirai quelques mots tout à l'heure. Donc le nouveau Kokinshu, les nouveaux poèmes, il vaut mieux traduire cela comme le nouveau Kokinshu plutôt que nouveau poème, n'est-ce pas, nouveau recueil de poèmes dans anciens et modernes, parce que c'est vraiment une relance de la tradition du Kokinshu. Chacun des deux, Saigyō et Jien, ont plus de 90 poèmes, n'est-ce pas, chacun, je crois que c'est 91 et 94, avec un léger avantage de 3 poèmes pour Saigyō, dans ce Shinko Kinshu. Alors évidemment, le Shinko Kinshu, qui date du tout début du XIIIe siècle, mais qui est entièrement, dans la matière est entièrement de Heian, n'est-ce pas. Parler de la situation culturelle, selon notre point de vue, c'est faire le point sur la situation langagière de la fin de Heian. Nous avons vu que cette époque s'est caractérisée par un lent et sûr processus d'intégration linguistique. Nous pourrions manier encore le paradoxe et dire que ce processus d'intégration s'est effectué au travers d'une manœuvre d'altération. Je vous ai dit toute l'importance que j'attachais à ce terme que je dois à M. Romain Menini, pour décrire ce qui s'est passé dans la culture japonaise au long des siècles. Ce processus, nous pouvons encore une fois le résumer dans ce texte, le trouver résumé dans ce texte de Pochuyi, de Paichuyi, maintenant, n'est-ce pas, Hakkyoi, le grand poète chinois du 9e, qui est mort autour de 848, n'est-ce pas, que nous avons vu au cœur d'un recueil décisif pour notre enquête, le Wakan Roeshu. Et ce Wakan Roeshu, vous vous en souvenez, date du tout début du XIe siècle, il est datable de 2013, et dont l'auteur compilateur, Fujiwara no Kinto, avec son œuvre, joue un rôle aussi surprenant qu'important dans le Senjusho. Vous vous souvenez, c'était la matière du cours de l'an dernier. Quitte à nous répéter, il nous faut replacer ici cette citation si importante. Ça fait déjà, je pense, au moins trois ou quatre fois que je la donne. Je la donne pratiquement chaque année parce que c'est un des axes de la pensée poétique japonaise et du processus langagier qui s'est déroulé à l'époque de Heian. Je vous donne ici deux lectures, une lecture qui est disponible sur l'Internet et une autre lecture de la très pratique édition de M. Miki Masahiro. Vous prendrez celle que vous voulez. Je vous en donne ici la traduction. « Puisse mon œuvre d'écriture profane, Seizoku Monji, que j'ai faite en cette existence, cette faute que sont les propos fous et les paroles spécieuses de la poésie, Kyōgen Kigyō ou Kyōgen Kigyō. On prononce très souvent lorsqu'on veut être montrer que l'on est au courant, on prononce Kyōgen Kigyō, mais la prononciation, je vous encourage à prononcer comme tout le monde, si j'ose dire, Kyōgen Kigyō, n'est-ce pas, les propos fous et les paroles spécieuses. Se retourner, Shirugaeshite. Vous voyez que l'autre lecture en donne une forme transitive, Shirugaerite. Donc se retourner, pour devenir dans les existences futures cause de louange au véhicule de Bouddha et condition de mise en branle de la roue de la loi. Alors vous voyez bien, j'attire votre attention dans les deux dernières lignes sur la variante, au lieu du caractère n'est-ce pas, Hirukaesu, que nous avons au centre pratiquement de la citation, on trouve souvent le caractère tenzuru, korobu. Alors, la seconde lecture, ten, se trouve souvent dans les citations secondaires de ce texte au Japon. Vous voyez qu'il y a une grande différence entre les deux et que le fait que ce soit hon, lorsqu'on utilise hon au Japon, on le prend dans un sens différent de celui qui est utilisé en chinois. En chinois, le terme, ce caractère de hon veut dire aussi traduction. Mais on voit bien que chez Pojui, ce n'est pas dans le sens de traduire, c'est simplement le sens de retourner la valeur. Et lorsqu'on a ten, c'est aussi un sens bouddhique qui veut dire vous avez un terme technique du bouddhisme qu'on appelle ten-e, n'est-ce pas? Ten-e, c'est-à-dire yori dokoro o tenjiru, ce qui correspond à l'ashraya parivarta en sanskrit, c'est-à-dire la permutation de la base, qui est vraiment le fait que la base mentale du pratiquant change d'angle, si vous voulez, pour se tourner vers la pratique. Alors c'est aussi un sens bouddhique très important. Mais en chinois, chez Pojuyi, ce n'est bien évidemment pas le sens de traduction qui est ici employé. Pojuyi pense à un retournement de fonction de la poésie. Mais lorsqu'on utilise ce texte au Japon, évidemment, hon, dans le sens de traduction, qui est bien attesté dès l'époque, hein, ne pensez pas que ce soit un terme moderne, et on l'utilise en Chine pour exprimer la traduction des textes sanscrits en chinois, les Japonais, invariablement, interprète ce caractère dans le sens de traduire du chinois en japonais. C'est pour ça que c'est donc la logique langagière même qui se trouve à l'œuvre dans ce waka no eshu, dont l'intention est précisément ceci: retourner ou traduire le chinois pour en faire du japonais, présenter la poésie et donc la langue japonaise comme équivalente en dignité du chinois. Tout ce processus s'est accompli après la période de Nara et le début de Heian qui avait vu fleurir la poésie et la composition en style chinois, dès le tout début du Xe siècle, avec la première anthologie impériale, je vous rappelle qu'elle est de 905. Nous ne pouvons qu'admirer la synchronicité. Le huitième recueil impérial, le Shinko Kinshu, dans lequel Jien joua un si grand rôle, clôt le cycle des huit recueils de Heian, dont la primauté sur l'ensemble des 21 recueils est canonisée par Teika, n'est-ce pas, dont je vous parlais tout à l'heure, avec son anthologie dite Hachi Daisho, n'est-ce pas, le recueil des huit périodes, c'est-à-dire les huit premiers recueils officiels. Ainsi, bien que situé historiquement à l'époque de Kamakura, la huitième anthologie est bien à considérer comme l'accomplissement de Heian et l'annonce d'une ère nouvelle. C'est la septième anthologie, le recueil d'un millénaire, le Senzaishu, achevé vers 1188, et à la rédaction de laquelle le poète Shunze, le père de Teika, avait eu un rôle décisif, qui est la toute dernière de Heian à proprement parler. Et on se rappelle que c'est ce même Shunze, je vous l'avais cité il y a quelques années, qui, au début de son traité poétique, le Kōrai Futeisho, rédigé en 1197, s'exprimait ainsi sur la poésie japonaise. Je ne vous ai pas donné le texte, mais je vous donne simplement la substance. En conséquence, disait Shunze, je soutiens à présent que la profonde voix de la poésie japonaise, en ce qu'elle est analogue aux trois substances, c'est-à-dire aux trois vérités de la vacuité, de la conditionnalité et de la médianité, Kukeichu no Santai, permet de communiquer avec la voie bouddhique. Je n'insiste pas sur ces trois vérités, mais rappelez-vous simplement que c'est un des symboles de la doctrine, de la doctrine du Tendai. Oui, nous sommes vraiment dans le, je l'ai dit, je le redirai tout à l'heure, la représentation intellectuelle de Heian est marquée par le Tendai. Et on se rappelle aussi que d'un autre côté, le recueil d'un millénaire, donc le Senzaishu, rendait définitive la double rubrique des poèmes sur les dieux et sur la doctrine bouddhique, Jingika, Jingibu, et Shakyoka, Shakyobu, qui forment les dernières rubriques des recueils. Tout cela nous amène à cette double observation sur la situation culturelle de la fin de Heian. Le processus de mise à niveau de la langue japonaise et de la langue chinoise, par l'intermédiaire de la série des 8 anthologies impériales après le flot des anthologies de style chinois, était achevé sur le plan littéraire. En même temps que la valorisation religieuse de cette poésie et donc de cette langue, s'était accomplie au long de ces 3 siècles grâce à la... Donc c'est en même temps que cela, donc la valorisation religieuse de cette poésie et de la langue japonaise s'était accomplie au long de ces 3 siècles grâce à l'intégration des dieux japonais dans la vision bouddhique de l'univers, intégration fondée sur l'idée de l'essentiel et du vestigiel, du fondamental et des traces, le Honji Suijaku que je vous donne ici. Et je vous ai dit, lors de cette, je crois que c'était la deuxième année sur les Jingika, sur les poèmes sur les dieux, je vous ai fait remarquer combien cette rubrique de poèmes sur les dieux était d'un certain côté trompeuse, parce que le rôle essentiel de cette rubrique était de montrer justement que les dieux japonais étaient des émanations des entités bouddhiques, des bouddhas et des bodhisattvas. Nous avions en réalité, ce n'était pas une opposition rubrique sur les dieux japonais d'un côté contre rubrique sur les bouddhas de l'autre, la rubrique sur les dieux japonais montrait que ces dieux japonais étaient intégrés dans les honji, dans les bases fondamentales qui étaient les bouddhas, et que ils étaient considérés comme des traces, des émanations. Donc, c'est le processus même de la langue, de rapport entre le chinois et le japonais qui était exemplifié dans cette relation. Nous avons à plusieurs reprises nommé Fujiwara no Teika, lui aussi poète, critique, contemporain de Jien. On ne peut le passer sous silence, non seulement pour son importance dans la critique poétique, et évidemment, je ne peux que renvoyer aux travaux de mon jeune collègue Michel Vieillard-Baron, et la canonisation de la poésie de Heian, vous savez son rôle dans l'établissement des Sanju Lokkasen, n'est-ce pas, les 36 génies, les 36 immortels de la poésie, je vous ai parlé du Hyakunin Ishu, etc. Donc c'est vraiment la canonisation de la poésie, mais aussi pour le rôle immense qu'il joua dans la transmission définitive de l'héritage littéraire en prose, avec en premier lieu l'Issei Monogatari et surtout le Genji Monogatari. Il fut à l'origine de la lignée dite des Aobiyoshi Bon, qui devint le texte standard jusqu'à l'époque moderne, en particulier du Genji, en rejetant la plupart des autres dans l'ombre. Ainsi, grâce à lui ou par sa faute, l'œuvre littéraire fondatrice que fut le Genji Monogatari, plus de 2 siècles après sa rédaction, n'est-ce pas, puisque Teika est de la fin du XIIe siècle, alors que le Genji, vous savez qu'on a fêté le millénaire en 1008, c'est pas, donc on peut considérer qu'entre 1000 et 1010, il était rédigé. Donc, au sortir de l'époque de Heian, trouva sa forme définitive pour devenir un texte majeur de la culture japonaise. Et ceci, malgré qu'on en ait, bien avant sa définition comme classique littéraire au sens européen à la fin du XIXe siècle. Vous savez que c'est l'un des... une idée que je trouve assez rapide pour dire gentiment, n'est-ce pas, qui c'est une idée très à la mode que l'on trouve encore, sur laquelle le Genji Monogatari a été pris dans une masse indistincte de textes japonais pour en faire un symbole de la littérature japonaise à la fin du XIXe siècle, parce que les Japonais devaient faire comme tout le monde et avoir une littérature nationale. Vous savez, le concept de littérature nationale s'étant développé en Europe d'ailleurs aussi au XIXe siècle. Or, ce n'est pas vrai. Bien sûr, le concept de littérature en tant que tel n'existait pas. En revanche, la place centrale du Genji dans toute la culture japonaise, pratiquement depuis sa parution, je ne vais pas revenir là-dessus, mais jusqu'à l'époque moderne, est indéniable. Qu'il soit considéré comme œuvre littéraire, comme œuvre morale, ou tout simplement comme modèle poétique. Que ce soit donc pour le Kokinshu, l'Issei Monogatari ou le Genji Monogatari, le rôle que joua Teika dans leur diffusion nous amène à considérer l'époque de Jien comme une période singulière, une sorte de creuset alchimique où l'ensemble de l'héritage littéraire de Heian passe par une phase de formation et de transformation qui lui donnera l'aspect que nous lui connaissons encore. Cela peut se dire aussi en deux autres domaines que nous effleurerons ici très brièvement. Tout d'abord, la littérature de commentaires. C'est dans cette période qui va de la fin du XIIe siècle au début du XIIIe siècle que l'on voit s'élaborer un ensemble de commentaires qui ne prennent plus pour objet les œuvres continentales ou les textes bouddhiques canoniques, mais les œuvres japonaises antérieures. Cela est vrai, bien sûr, des textes littéraires. Et Teika lui-même en a montré l'exemple en commentant le Genji Monogatari ou le Kokinshu, ouvrant la voie à un corpus littéraire qui prit des proportions gigantesques à l'époque d'Edo. Mais il faut aussi mentionner le grand mouvement exégétique qui concerne les textes religieux japonais, ainsi que la reprise en main religieuse de textes que nous avons tendance à considérer comme purement littéraires. Lors de notre cours sur le Shōji Jisōgi de Kukai, nous avons rencontré l'œuvre du commentateur, nous avons rencontré l'œuvre du commentateur Dohan, 1179-1252, vous voyez, quasiment contemporain de Jien, qui fut le premier de ceux qui s'efforcèrent d'élucider cet opuscule profond et abscon. Nous avons vu l'année suivante que les commentaires suivis du Wakan Roeshu, à la différence des gloses de Oe no Masafusa, qui est mort en 1111, mais ce sont des gloses, remontent aussi au tournant de 1200, de l'an 1200, avec les ouvrages de Shin'a. Et puis de Eisai. Ce sont là encore des synchronismes intéressants qui nous montrent la prise de conscience en la fin du XIIe siècle de l'héritage de Heian comme d'un corpus qui devient suffisamment autre, si l'on me permet de placer encore ici cette notion d'altération, pour devoir faire l'objet d'un travail similaire à celui qui se faisait sur les textes fondateurs continentaux. Là aussi, je le dis encore, n'est-ce pas, le Genji Monogatari était difficilement compréhensible pour les Japonais déjà de très haute époque. Je sais bien qu'on a des témoignages sur le fait que de toute jeune fille, pratiquement contemporaine de l'auteur, pouvait le lire, mais très 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 vite, il y a eu un décalage très grand entre la langue ambiante et le style du Genji. Remarquons le double mouvement langagier. Nous voyons que les commentaires du Wakan no Eshu sont tout d'abord, nous avons vu, sont tout d'abord consacrés aux poèmes chinois et sino-japonais. Ce n'est que peu à peu et tardivement que les waka de ce recueil font l'objet de commentaires approfondis. Le point commun entre les commentaires du Shōji Jisōgi et les premiers commentaires du Wakan no Eshu est donc que l'on a affaire à une attitude traditionnelle. Il faut expliquer, en chinois classique de préférence, des textes manifestement autres. Mais l'on voit aussi peu à peu à l'œuvre la logique langagière lancée par le Wakan no Eshu. Alors que les commentaires de ce recueil, à la fin du XIIe siècle, n'abordent pas encore les waka, c'est pourtant l'époque, fin du XIIe avec Kensho, qui fait essentiellement des gloses, et au début du XIIIe avec Teika, qui reprend Kensho, et Michel Villard-Baron est en train de travailler dessus, justement. C'est à cette époque, donc, que le Kokinshu se transforme à son tour en objet exégétique. Précisons que l'on verra un peu plus tard, dans la seconde moitié du XIIIe siècle, les premiers grands commentaires du Manyoshu. On pourrait dire que c'est l'existence de commentaires qui fonde un texte classique. Et l'époque où vécut Jien est véritablement l'âge où, une fois constitué le corpus, les lettrés peuvent se consacrer à ce qui est jusqu'à nos jours leur raison de vivre, le commentaire de texte. Et désormais, l'on peut consacrer cette noble activité non seulement aux œuvres rédigées en chinois ou en sino-japonais, mais aussi aux œuvres japonaises, exclusivement japonaises, qu'elles soient poétiques ou en prose. Contentons-nous ici de remarquer que les œuvres en prose elles-mêmes, l'Issei et le Genji, sont valorisées aussi essentiellement en ce qu'ils sont le support de Waka. On peut se demander ce qu'aurait été le statut du Genji s'il n'avait pas renfermé près de 800 poèmes, qui ont d'ailleurs souvent circulé sous forme indépendante. Ce sont les poèmes qui sanctifient le Genji, et bien sûr, l'Issei Monogatari. C'est une idée que je partage aussi avec le professeur Imanishi, avec qui j'en parlais il y a quelque temps. Ces textes, le waka est en quelque sorte la substance qui donne toute sa valeur au texte japonais. Nous avons vu pourquoi. En même temps, l'époque de Jien voit aussi se former et s'établir en toute légitimité littéraire de nouvelles manières d'écrire, des styles nouveaux qui vont vite dominer l'expression écrite de l'ère nouvelle. Dès avant l'essor des grands récits militaires, n'est-ce pas, les Gunki Monogatari, dont le chef-d'œuvre sera bien sûr le Heike Monogatari, récit dont le style est profondément marqué par le Kakikudashi du Kanbun, donc la lecture en japonais du sino-japonais. Et on ne peut ici citer même les plus importants représentants de ces prédécesseurs, n'est-ce pas, le Hogen Monogatari, le Taiheiki, etc. Nous voyons donc tout un courant littéraire préparer cette vogue, avec le genre de Setsuwa dont nous avons parlé l'an dernier, en esquissant la lignée qui allait du Hobotsushu en 1179 au Senjusho, 1250 à peu près, en passant par le Hoshinshu de Kamono Chome, avant 1216, donc avant la mort de Kamono Chome, et le Kankyo no Tomo de 1222. Tous Setsuwashu dont nous avons parlé l'an dernier. Il faut bien sûr mentionner de Kamono Chome encore le Hōjōki, rédigé en 1212, qui représente aussi un style mixte où la syntaxe sino-japonaise est intégrée à la langue japonaise littéraire classique en un remarquable équilibre. Ce style se retrouve dans les autres œuvres de Kamono Chome, dont nous rappellerons qu'il est né la même année que Jien en 1155-1216. S'il est moins chargé extérieurement d'expressions sino-japonaises que le style qui prévalut dans les Gunki Monogatari et le Heike Monogatari, une lecture plus attentive montre, du Hōjōki entre autres, montre que nombre de passages pourraient s'écrire très facilement en Kanbun. En réalité, ce sont des Yomi Kudashi, n'est-ce pas ? On a l'impression que Kamono Chome fait la phrase en Kanbun et qu'il la donne après en japonais. Il y a aussi le fait qu'il existait une petite version en Kanbun du Hōjōki, mais enfin, c'est une autre histoire. En tout cas, ça ne pourrait que renforcer ce que je vous dis en ce moment. En même temps, dans les pages qui traitent de poésie japonaise chez les différents auteurs dont nous parlons ici, on retrouve sans peine des développements dont l'origine remonte directement à la préface japonaise du Kokinshu de Kinotsu Nayuki, reprise de génération en génération dans les préfaces des anthologies postérieures et les traités de poésie. Et Jien est le premier à le faire. C'est un genre obligé de la préface de recueil poétique, et l'on voit qu'ils suivent pratiquement le modèle de la préface japonaise de Kinotsu Nayuki. L'une des caractéristiques fondamentales de tous les textes que nous avons mentionnés, et l'on ne sera certainement pas surpris, est la place qui occupe le bouddhisme. Si nous avons vu dans la citation de Jien donnée au cours précédent, citation conforme d'ailleurs à une idée ancienne remontant aussi au moins à la préface du Kokinshu, je vous répète qu'il dit à peu près que la voix de la poésie est la voix du Bouddha, n'est-ce pas ? Que le Kado, Uta no Michi est Butsudo, Hotoke no Michi. C'est une idée c'était une citation. Ah oui, et je vous avais dit aussi que c'est aussi le moyen de Kuni o Osamuru, n'est-ce pas, Osamuru Michi, une voie pour gouverner le pays. C'est une idée ancienne qui remonte par-delà le Kokinshu à la Chine, bien sûr. Donc la poésie est un instrument de choix dans l'administration du royaume et de la conduite des hommes. Mais cela n'est que son aspect phénoménal. Dans son essence, la poésie est reflet de la vérité bouddhique et est pratique de la voie bouddhique. Elle légitime, nous l'avons vu, l'emploi de la langue japonaise aux côtés de la langue chinoise, mais elle oriente aussi presque naturellement son discours dans le sens bouddhique, ce qui aboutit au résultat paradoxal à première vue de présenter les grandes épopées guerrières et en premier lieu le combat des Minamoto et des Taira, qui scelle l'époque de Heian et ouvre Kamakura, comme l'illustration de la doctrine bouddhique. Cette impulsion n'est pas éphémère. Nous la retrouverons jusque dans l'autre grande époque de bouleversement politique que fut la fin du XVIe siècle, d'Oda Nobunaga à Tokugawa Ieyasu, lorsque les grands chefs de guerre étaient aussi religieux bouddhiques, prenaient les ordres. Cela nous amène donc à présenter un bref aperçu de la situation religieuse de l'époque de Jien. Jusqu'à récemment, le nom même de l'époque de Kamakura évoquait avant tout le vaste mouvement que les historiens du bouddhisme ont appelé le nouveau bouddhisme de Kamakura, le Kamakura Shinbukyo, n'est-ce pas, dont les prémices sont profondément ancrées dans la fin de Heian. On sait que, comme beaucoup d'autres importations culturelles du continent, les différentes traditions bouddhiques chinoises ou coréano-chinoises qui se sont succédées au cours des siècles ont eu tendance à se superposer plutôt qu'à se remplacer. Les six écoles de Nara, Nanto Rokushu, que je vous donne ici, dont certaines n'ont eu qu'une existence théorique, en particulier le Jōjitsushu et le Kushashu, qui n'entre pas dans ces détails, mais voilà, on peut dire qu'ils ont une existence théorique, en tout cas, ils se sont tout de suite très rapidement dilués. Alors que d'autres ont connu des résurgences périodiques, ces six écoles avaient été, comme on sait, ou l'on croit le savoir, largement supplantées à l'époque de Heian, dès le début du IXe siècle, par l'établissement des deux écoles phares des siècles qui suivirent, le Tendai et le Shingon. Cela faisait huit écoles. Et l'on sait qu'au début du IXe siècle, des représentants de six d'entre elles avaient, sur ordre impérial, rédigé un compendium de leur doctrine. C'est ce qu'on appelle les Tensho Chokusen Noppon Shusho, n'est-ce pas, les six traités sectaires, pourrait-on dire, faits sur ordre impérial à l'ère Tensho, qui est 824-834. Sans doute sur l'ordre de l'empereur Junna. Cette liste devint canonique pour toute l'époque de alors vous voyez que il n'y a que six écoles qui sont représentées. Bon, pour moi ici dans ce cours, secte et école revient pratiquement au même. Je n'insisterai pas sur des. Bien sûr, il faut vous débarrasser de toute l'acception ultra-moderne du mot secte. C'était un terme qui était employé très couramment pour désigner les écoles bouddhiques de. Alors évidemment, certains chercheurs pensent plutôt à utiliser le mot école. Cela traduit le même mot shu, n'est-ce pas, shu, hein, pense utiliser le mot école pour les écoles de Nara parce qu'elles étaient proprement parlées fondées sur des textes. Et c'est vrai que on connaît très peu de fondateurs. Personne ne connaît le nom des fondateurs de l'école des écoles de Nara. Il y en a, alors que tout le monde connaît les fondateurs du Tendai et du Shingon dont nous allons parler dans un instant. Donc les sectes relèveraient plutôt sur la tradition d'un fondateur. Ça peut être vrai dans le cas du Shingon, mais Saicho pour le Tendai, après tout, se veut vraiment un simple transmetteur. Alors, en tout cas, pour moi, secte ici n'a absolument rien de péjoratif. Je préfère le redire. Donc, alors, en revanche, vous voyez que pour garder un chiffre canonique de six sectes, on a enlevé le Jōjitsu, le Jōjitsushu et le Kusha dans cette liste du premier tiers du IXe siècle. Mais la liste de huit, avec donc les six premières de Nara et les deux qui arrivent à Heian, le Tendai et le Shingon, devint canonique, car nous savons qu'un grand moine de l'époque de Kamakura, Gyōnen, 1240-1321, rédigea sous ce titre une présentation des doctrines des huit écoles, alors même que son époque voyait l'essor du nouveau bouddhisme. C'était une sorte de manifeste du bouddhisme traditionnel. Bien évidemment, le silence de Gyōnen sur les nouvelles sectes est éloquent. Si éloquent, d'ailleurs, que l'on ne tardera pas à ajouter à ces deux livres, les deux livres dont se compose le texte de Gyōnen, le Hashukoyo, vous voyez, qui signifie le résumé, l'essentiel des huit écoles ou des huit sectes, on ajoutera assez rapidement un appendice sur le Zen et la Terre pure. En remettant les deux écoles omises en l'ère Tensho, il entend donner la liste définitive des écoles légitimes face aux nouveautés de son époque. Donc, Gyōnen comme vous voyez, de la dernière partie de Kamakura, à l'époque où le bouddhisme de Kamakura a pris un essor certain, il donne cela donc comme une sorte de liste, de contre-liste. Il faudrait bien sûr s'interroger sur la nature de cette séparation entre écoles. Leurs nets contours extérieurs cachent en réalité de profondes influences mutuelles, sans compter que ce que l'on pourrait appeler, traduire en français par éclectisme, kengaku, le premier terme que je vous ai mis ici, la maîtrise de plusieurs systèmes bouddhiques, a toujours été considérée comme un exploit intellectuel digne de louange. On sait aussi que certaines écoles ont été soucieuses de démontrer qu'elles réunissaient en leur sein l'essentiel des autres. Le Tendai de Kamakura proclame que son fondateur, Saicho, avait en réalité introduit, en même temps que le Tendai, le zen, la terre pure, l'ésotérisme et la discipline monastique, le ritsu, n'est-ce pas ? Pratiquer pleinement le Tendai revenait donc à pratiquer tout ce qui comptait à l'époque dans le bouddhisme. Déjà, tout le monde le sait, le grand mouvement qui avait entraîné le bouddhisme tout au long de l'époque de Heian, dès le retour de Kukai de son bref séjour en Chine, autour de 805, fut la conversion à l'ésotérisme, au Mikkyo. Je vous donne en troisième ici. Le Tendai, qui avait voulu tout d'abord s'imposer comme une structure scolastique se suffisant à elle-même, c'est ce qu'on appelle le Kengyo, n'est-ce pas ? La deuxième ici. Et nous allons voir tout à l'heure comment. Elle fut, pour ainsi dire, dès la génération qui suivit Saicho, obligée de se mettre au diapason du Shingon. S'il voulait garder auprès de la cour et de la noblesse dirigeante qui avait reçu avec enthousiasme la liturgie complexe et impressionnante de cette école, relevée par le mystère des mantras et des lettres brahmiques. Je ne reviens pas là-dessus, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. On voit donc s'élaborer en parallèle à la doctrine scolastique, désormais appelée exotérique, Kengyo, avec sa hiérarchie fondée en principe sur l'érudition et l'expérience monastique, l'expérience scolastique, une autre hiérarchie ésotérique, qui est celle du Taimitsu, n'est-ce pas, donc du Tendai ésotérique, qui sera fondée sur les initiations et dont le prestige sera au moins aussi grand que l'organisation exotérique. La lecture du Shoji Jisogi nous a montré comment les doctrines ésotériques, expliquant la structure transdimensionnelle des lettres brahmiques, ont fourni aux Japonais de la fin de Heian une justification doctrinale bouddhique de la réévaluation de la langue japonaise. Je vous le redis, n'est-ce pas, Kukai n'avait pas parlé du japonais dans son traité, ni d'ailleurs nulle part, mais les commentateurs de la fin de Heian et de Kamakura intègrent à leur nouvelle conception du bouddhisme et des rapports avec le japonais, les idées de Kukai pour justifier la langue japonaise. Il va sans dire que l'école Tendai s'est ralliée à des vues similaires en adoptant à son tour la symbolique des lettres brahmiques et des mandalas dès la moitié du IXe siècle. Il va sans dire aussi que l'on serait bien en peine de trouver les prémices de telles doctrines dans les enseignements du Tiantai chinois du VIe siècle que Saicho s'était donné pour mission de transmettre au Japon. Ainsi, par-delà les limites des écoles, la fin de Heian et l'époque de Kamakura commençant, voit ce que nous appellerions aujourd'hui une transversalité, une attitude commune qui explique l'ambiguïté des positions des grands personnages de l'époque. On se souviendra encore du caractère éclectique de l'attitude des personnages qui apparaissent dans le Senjusho, dont les anecdotes reflètent aussi bien le prestige des hauts lieux de l'ésotérisme, comme le mont Koya, que les doctrines de l'école Hosso, de l'école de Nara, donc, et bien sûr et surtout de la terre pure. Car il ne faut pas oublier qu'alors que les historiens du bouddhisme japonais se sont complus à mettre l'époque de Heian sous le double signe du Tendai et du Shingon, la dernière partie de cette période est balayée par la grande vague de la croyance en Amida. Nous y reviendrons bientôt. C'est certainement le trait le plus remarquable et le moins compréhensible à première vue pour ceux qui ont eu la naïveté de trop se conformer à l'historiographie traditionnelle, je veux parler de l'historiographie bouddhique du XXe siècle, qui veut voir une rupture dans le bouddhisme de Kamakura. En réalité, si nous considérons l'un des plus grands moines Tendai de l'époque de Heian, Genshin, c'est l'avant-dernier, n'est-ce pas ? 942-1017, nous voyons immédiatement que les choses ne sont pas clairement tranchées. Il fut sans contestation possible l'un des meilleurs connaisseurs de la scolastique Tendai, de son époque en tout cas. Il s'illustra aussi dans l'histoire des disputations de l'école. Et on n'oubliera pas non plus qu'il fut l'un des principaux responsables de la transmission de la logique bouddhique dans le Japon médiéval, Immyo. Et pourtant, comme nous le savons tous, L'œuvre par laquelle il reste connu jusqu'à notre époque, il est encore en livre de poche, n'est-ce pas, le texte décisif pour l'histoire de la pensée bouddhique de la seconde partie de Heian n'est autre que le Hojo Yoshu que nous avons ici, qui, comme son nom l'indique, est un guide pour la renaissance en la terre pure. La meilleure façon d'assurer cette renaissance est la commémoration du Bouddha Amida, Nembutsu, pour laquelle il distingue deux modes principaux, mais nous ne nous y arrêterons pas ici. Contentons-nous de remarquer que dans le Hojoki, dont je vous ai déjà parlé il y a quelques instants, deux siècles après la mort de Genshin, donc, Kamono Chome, l'auteur, fait une brève description des livres qu'il a disposés dans son ermitage sur une étagère de fortune. Vous savez que le Hojoki, texte très court que je vous invite à lire, décrit comment Kamono Chome, déçu du monde, se retire dans les environs de Kyoto. Et il décrit les deux ermitages qu'il a musubu, n'est-ce pas, qu'il a construit, est un bien grand mot, qu'il a bricolé. On y parle dans ce passage, un passage très célèbre, d'un recueil de poèmes, Waka. Alors, est-ce le Kokinshu ? Sans doute, probablement. On parle aussi du sutra du lotus. Alors, on voudrait dire, bien sûr, le sutra du lotus. Mais ce qui est très intéressant, c'est que certains textes, certaines variantes du Hojoki ne mentionnent pas enlèvent le nom du sutra du lotus. En particulier, le fameux Sagahon, vous savez qu'au tout début de l'époque d'Edo, donc au tout début du XVIIe siècle, les Sagahon constituent une sorte d'édition, de xylographie des grands textes japonais, et la version Sagahon du Hojoki ne mentionne pas le sutra du lotus. Mais dans toutes les versions, ce que nous avons, c'est l'Hojo Yoshu, n'est-ce pas ? Donc, Kamono Chome a trois livres, un recueil de waka, sans doute le sutra du lotus, un quatrième livre, peut-être, parce que c'est ambigu, un traité de musique, semble-t-il. Il dit simplement kangen, n'est-ce pas ? C'est-à-dire instrument à vent et à cordes. Mais est-ce un traité de musique de l'époque ? On imagine mal, enfin, on peut imaginer qu'il ait mis une flûte et un koto sur son étagère, mais comme il vient au milieu d'un titre de livre, ça doit être un traité de musique. Enfin, bon, ça ne nous intéresse pas ici. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que donc, l'autre texte fondamental pour ce pratiquant érémitique, c'est l'Hojo Yoshu. Ce compendium, destiné à celui qui a foi en la puissance salvifique d'Amida, œuvre d'un moine japonais, je le répète, bien que ce soit en réalité un recueil de citations de textes chinois, mais c'est quand même sous le nom de Genshin qui s'est transmis, n'est-ce pas ? Donc, ce recueil est ainsi mis sur un pied d'égalité avec le Sutra du Lotus, au moins. Donc, le Sutra qui régnait en maître au Japon depuis que le bouddhisme était arrivé. Et il est intéressant de voir que l'Hojo Yoshu est mis en contrepartie avec ce traité de la terre pure, donc est mis en contrepartie avec l'un des plus grands sutras bouddhiques. Ce témoignage du début du XIIIe siècle, qui ne saurait être mis en doute, d'un contemporain de Jien, nous donne une indication précieuse sur le changement de vision du monde qui s'était instauré à la fin de Heian. Une excellente illustration en est la modification qu'apportait la foi en la terre pure à la grille d'explication que la scolastique Tendai avait élaborée dès l'œuvre de son fondateur réel, Chingi, n'est-ce pas, au VIe siècle. Nous ne pourrons pas entrer ici dans les détails de cette construction monastique, mais nous en dirons l'essentiel. C'est important pour la suite, vous comprendrez pourquoi lorsque nous aborderons l'œuvre de Jien. Cet essentiel est tout entier contenu dans le dogme dit de la classification critique des doctrines, Kyohan ou Kyohan Hanjaku. Un tel dogme n'est nullement l'apanage du Tendai. On en trouvera aussi d'autres versions, notamment dans le Shingon. Mais il est certain que c'est la version Tendai qui se répandit le plus largement dans la culture générale japonaise. Nous en tiendrons ici aux quatre doctrines et aux cinq périodes dans ce Goji Hakkyo. Vous voyez que... Alors, je suis obligé de simplifier un peu. Vous voyez que cette classification critique des doctrines est appelé, résumé dans, le, dans, la, les, dans l'appellation de Goji Hakkyo, les cinq périodes et les huit doctrines enseignement. Ces huit doctrines sont en réalité deux groupes de quatre, Kegi no Shikyo et Keho no Shikyo. Les Kegi no Shikyo concernent la méthode de l'enseignement, la façon dont le Bouddha a enseigné ses sutras. Je ne reviens pas dessus. Et Keho no Shikyo, donc, concerne le contenu de l'enseignement. Et c'est là que nous avons les quatre doctrines sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Le rôle de cette classification doctrinale est évident. Il découle d'un besoin qu'a éprouvé de longue date non seulement la communauté bouddhique, mais aussi tous ceux qui tentaient d'aborder rationnellement l'étude de l'immense canon bouddhique, de situer les uns par rapport aux autres et de hiérarchiser les enseignements variés et parfois contradictoires qui s'y trouvent. La conséquence naturelle, c'est d'ailleurs l'intention première d'un tel traitement, est que chaque école élaborera une grille de lecture qui justifiera ses propres priorités. L'originalité du Tendai est que sa classification comporte une dimension à la fois doctrinale et historique, en ce que les différents Bouddhas voient leurs prédications suivre une progression graduée au long de la vie historique de Shakyamuni. Il existe aussi une autre classification, donc, mais nous n'y rentrons pas ici. Rappelons donc que les quatre doctrines selon la nature de l'enseignement, c'est-à-dire celle que je classe, c'est donc l'avant-dernière rubrique, Zo, Tsu, Betsu, En, sont celles des corbeilles en premier lieu, les trois corbeilles, la commune, la particulière et la parfaite. Les cinq périodes sont la répartition des 50 années qu'a vécu le Bouddha historique depuis sa réalisation de l'éveil jusqu'à son entrée en extinction dans le nirvana. Exposer en détail ces dogmes nous emmènerait trop loin pour l'instant. Ce qui doit nous arrêter ici est la rubrique des cinq périodes, celle que j'ai donnée en dernier. Donc je vous invite à regarder pendant que je l'expose. Dont nous allons voir la façon dont elle influencera la vision du monde à l'âge qui nous intéresse. On sait que dans l'historiographie du Tendai, les 50 années qui séparent l'éveil du Bouddha de son entrée en extinction sont censées avoir vu la prédication de l'ensemble des textes contenus dans le canon bouddhique et qui se présentent comme le rapport de la parole même du Bouddha. Les sutras commencent par « Nyose Gamon », ainsi l'ai-je entendu, donc c'est son disciple Ananda qui le dit. Le Tendai divise ses 50 ans tout d'abord en une période très brève, suivant immédiatement l'éveil parfait du Bouddha. Celui-ci révèle alors l'intégralité de la loi, sans ménager de gradation propédeutique à l'assemblée qui l'entoure. Mais celle-ci est composée avant tout de bodhisattvas, qui sont dans les tout derniers degrés de leur progression, si bien qu'il peut leur exposer le plus sublime des sutras, celui de l'ornement de splendeur que je vous donne ici, n'est-ce pas, le Kegongkyo, l'Avatamsaka Sutra. Je vous donne quelques indications bibliographiques, mais nous n'avons pas à nous y arrêter. Mais l'enseignement est si sublime que les simples auditeurs qui sont aussi dans l'assemblée ne peuvent rien en retirer. Ils sont, nous disent les textes, comme des sourds et des muets. Aussi, le Bouddha doit-il infléchir son enseignement ? Toujours la dernière rubrique, n'est-ce pas ? Et c'est ainsi que sa vie publique commence. Il rejoint ses cinq disciples à Bénarès et au parc aux cerfs, au Rokuon, n'est-ce pas ? Shikano-sono, comme disent les poèmes, met en branle pour la première fois la roue de la loi, en exposant les enseignements simples et aisés à comprendre qui forment le bouddhisme que l'on appellera du petit véhicule. Les quatre saintes vérités, l'octuple voie, les 12 liens causaux, les 6 excellences ou paramitas, etc. Dogmes qui sont enseignés dans un corpus de textes traduits en chinois sous le nom de Agongyo, n'est-ce pas, les agamas, les instructions. Cette période est donc appelée, c'est la seconde période, appelée période du parc aux cerfs. Alors que la première période, celle de l'ornement de splendeur, était pour ainsi dire en dehors du temps, malgré son appellation, elle est appelée aussi période, ou disons qu'elle a duré un temps très court, la seconde durera 12 années, n'est-ce pas, nous avons ici 12 ans. Ces 12 années permirent au Bouddha de faire progresser l'intelligence de ses auditeurs. Il put ainsi passer au grade supérieur, qui était la prédication des sutras dits développés. En conséquence de quoi, c'est donc la seconde période, les Hodoji, n'est-ce pas, on lit parfois aussi Hotoji, la période des sutras développés. donc des sutras développés, en conséquence de quoi cette troisième période est aussi appelée la période développée, la période des sutras développés. D'un terme sanskrit, Mahavaipulya Sutra, d'un terme sanskrit qui est Vaipulya Sutra, qui désigne à l'origine une catégorie d'écriture bouddhique sanskrit, mais je n'interviens pas là-dedans. Il est amusant, en revanche, de voir que, sous le terme de Mahavaipulya Sutra, le Kegon Gyo est aussi un sutra développé, un grand sutra développé. Mais évidemment, on n'en tient pas compte dans cette critique. Donc, disons seulement ici que cette période des sutras développés est représentée par la prédication de sutras aussi importants dans l'histoire du bouddhisme japonais que l'enseignement de Vimalakirti, n'est-ce pas, que nous avons ici, le Yuimagyo, ou bien le Shomangyo, n'est-ce pas, le Sri Maladevi Singhanada Sutra, qui sont, avec le Sutra du Lotus, ce sont trois sutras qui sont censés avoir été commentés par le prince Shotoku Taishi lui-même au début du 7e siècle. D'ailleurs, il est amusant de voir qu'à l'époque qui nous intéresse encore une fois, parce qu'on ne fait pas attention, nulle mention n'est faite des sutras d'Amida, les sutras amidistes, n'est-ce pas, dans cette classification des doctrines. Évidemment, les Japonais de l'époque ont été obligés de se poser la question. Or, dans certains textes de l'époque, les sutras d'Amida viennent dans cette période des sutras développés. Ce qui est un peu contradictoire avec ce que l'on va voir tout à l'heure, mais il faut bien distinguer la teneur des sutras et l'action salvifique du Bouddha Amida. Je reviendrai peut-être là-dessus plus tard. Alors, si je reprends les explications simples du compendium du moine coréen Taikan, n'est-ce pas, que je vous donne ici dans la dernière ligne, qui s'appelait la disposition des quatre doctrines selon le Tendai. C'est un moine coréen, Chegwan en coréen, qui vécut au Xe siècle, il est mort en 1971. Son petit traité a été très très lu au Japon à partir de la fin de l'époque médiévale. Donc, selon Taikan, cette période présente à la fois les sutras du petit véhicule, mais aussi les doctrines du grand véhicule, en contraste avec les premières. Elle permet de mettre en lumière le caractère partiel et mineur du petit véhicule pour mener les êtres à aspirer au supérieur. Cette période dure 8 ans. Nous sommes donc à 20 ans dans la prédication et le Bouddha à 50 ans. Les auditeurs ayant à présent considérablement mûri dans leur faculté de compréhension, le Bouddha peut leur dévoiler l'avant-dernier degré dans la progression doctrinale. C'est donc ce qu'on appelle le Hanyaji, n'est-ce pas ? Et il est représenté par les sutras dits de l'excellence de sapiens ou la grande vertu de sagesse, les Prajnaparamita Sutra, sur lesquels je vous donne quelques détails ici. Un énorme corpus scripturaire qui démontre et répète inlassablement que toutes les entités sont vides de nature propre, n'est-ce pas ? Jishoku, ou tout simplement Ku, ont des textes qui vont des 5 millions de caractères du Daihanya Shingyo, occupent trois volumes entiers du canon bouddhique de l'ère Taisho, n'est-ce pas, qui sont d'énormes volumes. Il comprend 600 livres, ou quelques 260 caractères du Sutra du cœur de la sapience, le Hanya Shingyo. Le simple fait physique d'exposer une telle masse de discours a nécessité 22 années de la vie du Bouddha. Avec cette quatrième période, celle de la sapience, donc le Hanyaji, nous en sommes à l'âge de 72 ans pour le Bouddha. Vient la dernière période, celle où le Bouddha s'achemine vers son extinction suprême. Les facultés des auditeurs sont désormais venues à pleine maturité. Ils sont prêts à entendre la révélation de la loi réelle, la loi sublime et subtile, Myoho Minori, du Sutra du Lotus. Tout ce qui précédait était en fait des expédients destinés à susciter l'intérêt des auditeurs et à éviter le découragement et l'incompréhension devant le caractère inaccessible de la doctrine telle qu'elle leur avait été jetée en pleine face de but en blanc lors de la première période, celle de l'ornement de splendeur. Dans ce côté expédientiel, je vous invite à le garder en tête pour la dernière citation que je ferai tout à l'heure. Tous les traités de dogmatique Tendai s'accordent à dire que la doctrine parfaite que le Bouddha révèle dans le Sutra du Lotus est en réalité la même que celle du Kegongyo. La différence étant qu'elle a été cette fois rendue compréhensible. On n'oubliera pas que la première partie du Lotus et singulièrement le chapitre 2, est consacré à révéler la nature provisoire et circonstancielle des enseignements antérieurs du Bouddha. Alors que ce qui constitue la partie essentielle de la doctrine parfaite, retenez bien ce terme, n'est-ce pas, de Engyo, n'est-ce pas, dans la doctrine N, c'est le N que nous avons dans JN, qui voudrait dire la perfection de miséricorde, de charité. Donc, alors, la partie essentielle de la doctrine parfaite donc, est la réalité des entités, le Shōhō-jisō, dont je vous ai déjà souvent parlé. L'autre révélation importante et presque choquante est que l'épisode le plus décisif de la vie du Bouddha, sa mort, son entrée dans le nirvana, n'est elle aussi qu'un expédient salvifique. Cela fait en réalité une éternité que le Bouddha est entré dans la parfaite extinction. Le sutra du lotus, donc, abolit et transcende les enseignements précédents et en même temps, il les contient tous. Il fallut 8 ans au Bouddha pour prêcher ce qui devait être l'ultime sutra et parachever sa mission parmi les êtres. Vous savez qu'il y a 7 ou 8 livres dans le sutra du lotus selon les versions, selon les éditions. En Chine, c'est 7 livres, au Japon, c'est 8 livres. Et c'est vers la fin du... C'est vers la fin du 8e siècle que cette édition en 8 livres s'est répandue. Et on peut se demander si ce n'est pas pour se mettre en accord avec le fait qu'il y a eu 8 années de prédication du lotus. Mais ce n'est pourtant pas tout, comme dirait une publicité. De même que la première prédication, celle de l'ornement de splendeur, était fort courte, nous avons, après la prédication du lotus, une ultime partie, un reste de vie du Bouddha, sa dernière nuit en ce monde, qui sert avant tout, dans le dogme des 5 périodes, à mettre la doctrine en conformité avec ce que l'on considérait comme l'histoire authentique du Bouddha. Or, toutes les biographies traditionnelles s'accordaient sur le fait que le dernier enseignement prêché par l'éveillé était le sutra de l'extinction suprême, c'est pas le Mahaparinirvana Sutra. Il fallait donc l'intégrer dans ce dogme. Il apparaît au Bouddha qu'au moment d'entrer dans l'extinction, il restait des êtres qui avaient échappé à l'action salvifique du lotus, et à leur intention, ils prêchent donc le sutra du nirvana. L'idée n'est d'ailleurs pas saugrenue, car on a de longue date relevé des similitudes entre les enseignements des deux sutras, en particulier de l'existence éternelle de l'ainsi venu. Mais je n'entre pas, là aussi il y aura beaucoup à dire. D'autres enseignements viennent développer ceux du lotus, avec d'immenses conséquences pour la pensée extrême-orientale, en particulier celui sur l'universalité de la nature de Bouddha, le Issai Shujo Shitsubusho. Tous les êtres, l'ensemble des êtres, possèdent la nature de Bouddha. C'est dans le Nehangyo. Cela n'existe pas dans le sutra du lotus. Il y a le terme « nature » de Bouddha dans le sutra du lotus, mais il y a un problème textuel qui fait qu'on peut hésiter entre « nature » et « lignée ». Donc, c'est le sutra du Mahaparinirvana qui est certainement, très certainement postérieur au lotus, qui développe certaines idées qui ne sont pas dans le lotus, mais que l'on considérera vraiment en relation avec les deux. Donc, le Bouddha clôt à 80 ans les 8 dernières années de sa prédication et disparaît à minuit dans l'extinction. Nous avons donc ainsi l'articulation des 5 périodes et des 4 ou 8 doctrines qui forment le socle de la pensée de Heian. Ces 5 périodes, grâce à un jeu sur l'ambiguïté du mot japonais, sino-japonais « ji »,« toki », qui signifie « temps »,« période », mais aussi « heure », n'est-ce pas, l'heure de la journée, ont été adaptées à une comparaison portant sur les heures de la journée. Il y a aussi d'autres comparaisons, mais je n'y reviens pas. La comparaison des 5 saveurs, nous retrouverons dans les cours qui suivront. Donc, les heures de la journée marquées par la course du soleil. C'est cette comparaison qui va permettre un développement très significatif à la fin de Heian. Il nous faut donc l'esquisser rapidement, toujours d'après notre moine coréen Taikan. Elle reprend un passage du Sutra de l'ornement de splendeur. La première période... Et là, je cite Taikan sans vous le dire, toutes ces définitions sont de Taikan, comparable au soleil qui, dès son lever, illumine d'abord les monts élevés. C'est le Kegongyo, n'est-ce pas, illumine d'abord les sommets, donc les gens de très haute faculté. La deuxième période, c'est le moment où le soleil illumine les vallées obscures, donc les gens dont les facultés relèvent du petit véhicule. La troisième période, c'est l'heure du repas du matin. Donc, où l'on a la doctrine commune. La quatrième période, il s'agit de 10 heures du matin. Il ne précise pas davantage. Et c'est le Hanya, c'est donc la période de la Prajnaparamita. Et la cinquième période, la cinquième période est semblable au moment où le disque solaire est à midi et où toute chose est éclairée sans portée d'ombre. Voici les cinq périodes mises en parallèle avec les cinq heures du jour. Avec cette grille des huit doctrines alliées aux cinq étapes de la prédication du Bouddha, cinq étapes reliées aux cinq heures du jour, le Tendai élabore un système presque parfait. On voit quand même qu'il y a la difficulté du sutra du Nirvana. Un système presque parfait de compréhension, compréhension dans tous les sens, n'est-ce pas, de la pensée bouddhique. La mise en relation avec les cinq heures de la journée en particulier, qui ne va que jusqu'à l'heure de midi, donne un sentiment de complétude. Mais en même temps, pourrait-on dire, si l'on réfléchit un peu, de non-adéquation de ce qui est comparé, du comparatum, à ce avec quoi on le compare, du comparandum. Car tout un chacun sait que la journée ne s'arrête pas à midi. Il manque l'après-midi et surtout le coucher du soleil. Nous verrons dans les prochains cours comment évolue cette idée et comment son évolution est importante pour comprendre l'étude et la pensée de J.N. En attendant, en guide d'indice et de rappel, et d'appel même, relisons ce poème de J.N. qui est dans sa Centurie du Lotus et qui illustre le chapitre 7 du Sutra du Lotus, la cité fantasmagorique, la cité illusoire, qui correspond tout à fait à ce que je vous ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas ? C'est l'une des, vous savez, c'est une caravane qui va vers un endroit au trésor. La caravane est dans le désert. Les gens sont assoiffés, sont affaiblis. Ils veulent retourner. Et le guide, qui est magicien aussi, fait apparaître une cité fantastique, une sorte de Disneyland au milieu du désert, où les gens croient voir des fontaines, des maisons fraîches, etc. Et ils peuvent se reposer, il n'y a rien en réalité, et reprendre leur marche vers le lieu du trésor, qui bien sûr, dans le Sutra du Lotus, est la révélation du Lotus, n'est-ce pas ? Or, nous avons maintenant ce texte de J.N., grand moine du Tendai, n'est-ce pas, donc fondé sur le Sutra du Lotus. Et voici ce que J.N. nous donne comme poème sur ce passage du chapitre 7 du Sutra du Lotus. Karini, le passage, n'est-ce pas, Gonkesa Shijo, n'est-ce pas, Karini Kono Shiro Kono Jo O Kesa Seri, j'ai fait apparaître provisoirement ce fantôme de ville, dit le guide qui est le Bouddha, bien sûr, pour aller au Sutra du Lotus. Or, que nous dit ici J.N., et je ne vais pas m'étendre trop sur ce poème, mais vous voyez, « Karisome no yado tokoso kike, tabi no sora, nagamurusue wa murasaki no kumo. » Provisoire, certes, est ce gîte, nous l'entendons. Au ciel de notre voyage, nous contemplons en son terme les nuées empourprées, murasaki no kumo. Bon, on a déjà parlé de cette métaphore qui ne peut qu'éveiller à la fois l'idée du soleil couchant et la venue du Bouddha Amida. Et vous voyez donc qu'il donne ici une heure qui dépasse de beaucoup l'heure de midi, ce grand moine du Tendai, n'est-ce pas ? Et il l'a défini comme le souhait, c'est-à-dire le but ultime, le but final de son voyage. Donc, vous voyez déjà ce qui se dessine, sur lequel je vais insister davantage la semaine prochaine, en vous remerciant d'être venu aujourd'hui.